Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse et bénisse la parole que je vais vous apporter aujourd'hui, qui va mettre un peu au clair certaines choses et qui va. Je vais prêcher ce premier message et ensuite je vous en apporterai d'autres pour que cela soit enregistré et que vous puissiez le savoir. Donc c'est une nouvelle série, si vous voulez, que je vais commencer ce soir, mais on le fera que le vendredi, pas le dimanche. Voilà, c'est une étude. Je continue sur le sujet que j'avais commencé à aborder un peu vendredi passé, et j'ai à cœur d'aller un petit peu plus profond dans ces choses. On va commencer par lire Matthieu chapitre 16, verset 18, si vous voulez ouvrir votre Bible avec moi, Matthieu 16, 18. Voilà ce qui est dit là. C'est Jésus qui parle, il dit, moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, donc ce soir, que nous ayons l'intelligence spirituelle et renouvelée pour bien la comprendre. Donc là, Jésus parle de bâtir son église. Il ne parle pas de bâtir une multitude d'églises comme on voit aujourd'hui dans le monde, un peu partout, tout ça fabriqué par les gens. Et il a bâti son église, non pas sur pierre, comme certaines sectes le prétendent, mais sur le rocher de la révélation que Pierre avait eue. Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Vous vous rappelez, je vous ai dit ça l'autre jour. Donc c'est sur cette révélation, la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que c'est là-dessus que Jésus-Christ bâtit son Église. Alors, il y a des années de cela, ma mère avait prophétisé, disant que nous allions recevoir une parole qui nous aiderait à tenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Et quelques semaines après cette prophétie, nous avons trouvé la révélation qui peut ouvrir les sept sceaux de l'Apocalypse. Nous l'avons trouvé d'une façon tout à fait étrange, je raconte ça dans mon bouquin L'Oracle, c'était tout à fait inattendu. Cette révélation, en fait, a été donnée à un serviteur de Dieu très contesté dans les milieux évangéliques, c'est un prophète américain qui s'appelle William Marion Branham, et cette révélation a été donnée en 1963. Le premier sceau d'Apocalypse a été ouvert le 18 mars 1963. Avant cela, ce qui était écrit sous ce sceau, c'était, il y avait des suppositions qui étaient faites. Et là, il a eu le « ainsi dit le Seigneur ». Il a brisé le sceau par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu lui a parlé véritablement et il a expliqué réellement qu'est-ce que cela signifie. Et le septième sceau, il a ouvert chaque soir un nouveau sceau avec l'aide de Dieu. Et le septième sceau a été ouvert le 24 mars 1963. Alors écoutez bien, sans cette révélation, la connaissance de la vérité est fermée parce qu'elle est tenue scellée sous ces sceaux. Quand vous lisez le premier sceau, je vis un cheval, et puis il y avait un être vivant, et puis si, puis voilà, c'est assez voilà, imagé, on ne comprend pas bien. Mais la connaissance, elle est scellée, elle est tenue scellée, fermée, et il faut que cela soit révélé. Ça devait être tenu scellé jusqu'à la fin, et c'est seulement à la fin que ces choses pouvaient être révélées. Ce que je vais vous dire risque de vous choquer, mais vous allez quand même comprendre. Vous avez l'habitude de venir m'écouter, vous savez de quoi je parle. L'image du grand Dieu créateur que Moïse a révélée aux Juifs, elle n'était qu'une ombre. Elle n'était qu'une ombre. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 17. Qu'est-il écrit là? Il est écrit là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. On peut lire aussi Hébreux 10, 1. Voilà ce que l'auteur aux Hébreux dit. La loi, en effet, la loi de Moïse, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Voilà. Donc c'était une ombre. L'image du grand Dieu créateur que Moïse a présenté au peuple, a révélé au peuple. Je vous rappelle que le mot apocalypse signifie révéler. Donc si vous voulez, l'apocalypse de Moïse, c'était une ombre. Vous voyez ? La révélation, elle est progressive. C'est pourquoi il est reproché à ceux du dernier âge de l'Église d'avoir cet orgueil de penser qu'ils ont tout. On a tout, on n'a besoin de rien. Ils ont oublié que la révélation est progressive et que Dieu parle encore, qu'il a encore des choses à dire, des choses que vous ignorez et dont vous avez vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous parle. La révélation est progressive et même ce que Jésus a révélé quand il était vivant sur cette terre n'était pas complet. Il le dit lui-même, écoutez, je prends Jean chapitre 16 verset 12 pour vous montrer, pour vous prouver par la Bible que ce que je vous dis c'est pas des bobards. Jean 16, 12, Jésus parle et dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, quand le Saint-Esprit sera venu, etc., etc. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, même quand Jésus parlait, c'était pas la révélation totale. Et aujourd'hui, nous savons, par révélation, que l'être vivant qui règne sur l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'être vivant à tête d'aigle. Il y a quatre êtres vivants devant le trône de Dieu. Un être vivant à tête de lion, un être vivant à tête de bœuf, un être vivant à tête d'homme, un être vivant à tête d'aigle. Et à la fin de l'histoire de l'Église dans les nations, c'est l'être vivant à tête d'aigle qui règne sur l'Église, pas sur les Églises, sur l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez bien, quand il dit « je bâtis mon Église ». Cet être vivant voit tout d'en haut et révèle tout à l'Église de Jésus-Christ parce que elle ne va plus rester sur la terre et il faut que, avant que Jésus revienne, tout soit rétabli. On trouve ça dans les Actes, je vous l'ai déjà chanté sur tous les tons. L'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui est nommée dans Apocalypse 3, 21. Elle est clairement nommée là, vous verrez. Il est dit, si vous avez la curiosité d'aller voir, à celui qui vaincra, voilà. La véritable Église de Jésus-Christ est celui qui vaincra, qui ne se laissera pas avoir comme les fausses églises. Qui se laissent avoir toutes sortes de trucs, ils sont ni froids, ni bouillants, ils sont tièdes, etc., etc. Il est dit là, dans Apocalypse 3, 21, je vais quand même vous le dire, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. » C'est-à-dire qu'il a commencé à prendre le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, il a les clés de tout, du séjour des morts, de tout. Or, ceux qui ne seront pas vainqueurs dans cet âge-là, en maintenant aujourd'hui-là, ne seront pas enlevés. Ils n'ont, tenez-vous bien, que l'ersatz de ce que produit la révélation. Qu'est-ce que c'est qu'un ersatz ? C'est quelque chose qui remplace. Ils n'ont que ce qui remplace la révélation. Rares sont ceux qui reçoivent la révélation. Ils ne veulent pas en entendre parler ou ils n'en ont jamais entendu parler. Et ils entendent dire que William Branham était un faux prophète parce qu'il a dit que Jésus reviendrait en 1977. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. J'ai lu tout ce qu'il y a à lire, j'ai entendu tout ce qu'il y a à entendre. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que d'après lui, d'après ses investigations personnelles, il pense que le commencement de la fin des nations commencerait en 77. Et on peut constater que depuis les années 70, c'est la véritable cata mondiale. Je pense que les vieux comme moi, vous le savez, avant c'était quand même très différent. Enfin, il y a eu aussi la guerre mondiale, mais enfin bon. C'est la fin. C'est la fin. À partir des années 70, il y a eu les crises économiques mondiales à cause du pétrole et toutes ces choses-là, et c'est devenu terrible. Si vous voulez, la croyance des gens dans les églises, elle est un succès d'année. C'est peut-être un mot plus simple, c'est-à-dire un sous-équivalent. Quelque chose qui est équivalent, mais qui est en dessous. Quelque chose qui était dénaturé. Ils ont des interprétations sur ces textes, ils pensent que... Je me souviens d'avoir vécu dans les années 70, les pasteurs pentecôtistes Assemblée de Dieu pensaient qu'on était dans l'âge de... On était à l'âge de l'amour fraternel. Bon. En fait, leur foi, leur croyance, c'est une parcelle de la révélation. Un morceau. Un détail, qui, considéré de près, représente l'ensemble de manière tout à fait insignifiante et déformée. Un ersatz de connaissance, c'est comme une connaissance, enfin c'est une connaissance qui est limitée. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de connaissance, je dis simplement que leur connaissance est limitée parce qu'ils ont rejeté le prophète qui a parlé, non pas simplement dans son petit coin, mais dans le monde entier. La révélation que Dieu donne de lui-même à Moïse, c'était aussi un ersatz, si vous voulez. C'était que l'ombre de ce qui allait être révélé. Et Jésus aussi ne révèle pas tout. C'est l'Apocalypse de Jean qui est le livre de la révélation. Le mot Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ, révélation de tout. Mais on ne peut le comprendre que par révélation. On peut avoir des intuitions, on peut avoir des interprétations, mais il nous faut la révélation. Alors tout ce qui est transmis à une personne n'est pas toujours la parole de vérité. Il y a beaucoup d'esprits très religieux qui cherchent à nous tromper. Je ne parle pas d'êtres humains, je parle d'esprits religieux qui cherchent à nous tromper. Et il nous faut donc tout vérifier avec les Écritures et avec la parole des prophètes de notre temps, les contemporains, etc. Il faut tout vérifier. Parce que la vraie révélation ne peut pas contredire ce qui a été révélé aux prophètes d'autrefois, qui ont écrit dans la Bible ou dans le livre de Mormon. Et les révélations des prophéties actuelles, tous ces prophètes actuels, capables, doivent accepter d'être mis à l'épreuve. Et c'est là que le bât blesse. S'ils n'acceptent pas la mise à l'épreuve de l'esprit qui les inspire, personnellement, je doute. Je doute. Je vous parlais l'autre jour de la confrontation entre personnes de bonne volonté. Vous vous rappelez? Un vrai prophète doit accepter cette confrontation. S'il n'accepte pas, c'est que... J'ai un doute. Parce qu'une révélation commence à venir par l'intuition. L'intuition, c'est proche de l'inspiration, mais c'est pas tout à fait ça. L'inspiration, c'est déjà une découverte un petit peu plus profonde. Maintenant, l'intuition, elle est produite par l'esprit humain. Et elle est plus ou moins fausse ou plus ou moins juste. L'inspiration, elle produit la découverte. Le problème, c'est que on peut être inspiré par le bon esprit, par l'esprit de vérité, mais aussi par des mauvais esprits. C'est ça le problème. Alors toute inspiration est inspirée par un esprit de toute façon, ça vient de l'extérieur. Alors bien sûr, une personne un peu lourdingue, qui voit pas plus loin que le bout de son nez, qui est, excusez-moi, un peu bébête, sans intuition, sans inspiration, ne peut pas recevoir une révélation. Au départ, il faut déjà avoir une certaine finesse dans sa propre nature. Et là encore, il doit y avoir de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Les révélations concernant l'Église, elles viennent au ministre. Vous avez le don de prophétie qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Ça, c'est pour exhorter, consoler, reprendre, corriger. Voilà. Mais les prophéties qui concernent l'Église dans le temps où elle est, ça doit être un prophète. Pas un homme ou une femme qui a reçu un don de prophétie. Ça doit être un ministre. Il y a 5 ministères. On va en parler. Les membres d'Église peuvent avoir des révélations, mais des révélations concernant leur propre vie ou la vie de leur famille. Sinon, à quoi servent les ministères si tout le monde peut s'y mettre, n'est-ce pas? Il faut de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans les fausses églises, n'importe qui peut prétendre recevoir une révélation pour la bonne marche de l'Église, etc. Mais ce n'est pas dans l'ordre établi par Jésus-Christ pour son Église. Il faut accepter cela. Alors, un membre d'Église peut avoir une intuition, il peut avoir une inspiration, oui, tout à fait. Et quand cela arrive, ça peut arriver, eh bien ce qu'il a reçu, il doit le partager avec le ou les ministres de l'Église locale. Et il doit avoir l'humilité d'accepter que son intuition ou son inspiration soit passée au crible par les ministères. La Bible dit que si quelqu'un prophétise ou plusieurs prophétisent, que les autres jugent. Vous voyez? Oui, mais il ne faut pas juger. Si un homme spirituel juge de tout, à plus forte raison, quelqu'un qui est ministre de l'Évangile. Il faut que ça soit passé au crible pour que toute chose soit éprouvée correctement. C'est faute de cela qu'il y a toute cette confusion dans toutes ces églises. La révélation est faite. Elle est donnée à un porte-parole de Dieu dans l'Église, à un ange de l'Église. Le mot « ange » dans l'Apocalypse, c'est toujours l'envoyé, celui qui était envoyé à l'Église. Moi, je suis l'ange de l'Église d'ici. Dieu m'a mis ici pour que je puisse être le pasteur, l'envoyé, n'est-ce pas? Alors, il faut de l'ordre. Dieu ne fait rien sans avertir d'abord les ministres. On trouve ça dans Amos 3, 7. Alors, je parle bien des ministres selon ce que Éphésiens 4, 11 nous dit, et pas du tout des gens qui ont un don de prophétie ou d'interprétation des langues, comme on trouve dans 1 Corinthiens 12, 7. Les gens mélangent tout. Faute de connaissance, mon peuple périt. Il mélange tout. Un ministre dans l'Église, c'est une personne qui a l'esprit de révélation, qui est déjà en lui-même depuis toujours. Et la révélation qu'il reçoit, si vous voulez, c'est un développement qui est déjà en lui. Un dévoilement qui est déjà en lui. Et cela s'est rendu visible par les circonstances à tous ceux qui sont là et qui ont l'amour de la vérité, qui prient, qui cherchent pour découvrir la vérité sur leur époque. Des gens qui sont des amoureux de la vérité. Si vous voulez, aujourd'hui on est tous avec nos téléphones à faire des photos à Google, à tirer la Google, mais la révélation c'est un petit peu comme le développement d'une photo argentique dans un laboratoire. Pour les plus jeunes, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Alors, on prenait une photo, puis ensuite on allait dans un lieu, la chambre noire, comme on disait, il y avait juste une petite lumière rouge pour qu'on y voyait un peu clair. Et puis on passait, n'est-ce pas, les papiers dans différents bains, très particuliers, et voilà que, petit à petit, l'image apparaissait sur le papier. Mais elle n'apparaissait que si elle était déjà avant sur le film. L'image y était, mais elle était non visible. elle était non révélée. Eh bien, ce qui est écrit dans la Bible au sujet des sept sceaux, c'est l'image non révélée. Si vous n'avez pas reçu la révélation concernant les sept sceaux, ben vous avez le film, mais il n'y a rien dessus. Vous avez quelque chose, mais ça ne vous explique rien. Maintenant, il faut savoir que c'est à William Branham que cela a été donné de briser les sept sceaux de l'Apocalypse. Vous savez que autrefois, du temps de l'apôtre Jean, les livres c'était des rouleaux, et pour les sceller, on mettait un sceau de cire, n'est-ce pas, dessus. Et tant que le sceau était là, on pouvait rien lire de ce qui était écrit dessous. Donc, ces écrits sont scellés. Ces écrits, on peut lire. Voilà, alors, je vis premièrement le premier sceau, il y avait un cheval blanc, etc. Bon, mais ça veut dire quoi? Tant que le sceau n'est pas brisé, la révélation de la chose ne peut pas vous atteindre. Ça doit venir par un prophète. Et ceci afin que vous sachiez, que nous sachions, que nous ayons la révélation de ce que signifie ce qui est écrit sous ces sceaux. Il lui a aussi été donné de dévoiler ce que signifient les sept lettres aux sept églises. On a tout dit là-dessus. J'ai un bouquin qui raconte. C'est des gens qui ont frôlé la vérité, ils ont perçu certaines choses, ils ont écrit de très belles choses, mais ça, c'est pas la révélation, c'est pas le « ainsi dit le Seigneur ». Lui, il a reçu le « ainsi dit le Seigneur ». C'était un homme qui n'était pas parfait, je vous l'accorde. Et voilà, mais bon, qui est parfait? Il n'y a que Jésus qui soit parfait. Mais les esprits religieux ont rejeté ce prophète, comme ils ont toujours fait, les esprits religieux rejettent toujours les prophètes. C'est ce qui fait que dans les églises d'aujourd'hui, les gens croient religieusement comme des enfants, sans savoir. Alors c'est vrai que sur certains points, il faut être comme les enfants, mais pour d'autres, il faut quand même grandir un peu, mûrir, devenir des adultes. Et ils ne sont pas adultes. Ils n'ont pas le savoir. Mes frères et sœurs, le temps de la crédulité, est terminé. C'est révolu, c'est sec, c'est mort. Nous ne vivons plus dans le temps où il suffit de croire, vous savez comme on dit, la foi du charbonnier. Non, nous sommes au temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire au temps où les choses sont révélées. Nous sommes au temps de la révélation. Non, c'est plus on croit, mais on sait. La révélation a été donnée. Nous sommes au temps où toutes choses sont dévoilées, révélées. La vérité est mise à nu, le mensonge aussi. Ce qui a été révélé à la vraie Église de Jésus-Christ de par le monde produit la vraie foi. Et la foi, c'est la source de la puissance qui donne la vie. Alors Moïse a apporté l'ombre des choses à venir, Jésus a apporté la lumière, mais pas toute la lumière en son temps, parce que personne n'aurait pu supporter. Et aujourd'hui, alors que nous sommes arrivés à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin du système de ce monde religieux et laïque, eh bien nous pouvons dire tout est possible à celui qui sait, pas seulement à celui qui croit. Il nous faut de l'huile fraîche pour notre époque. Tout est possible à celui qui sait, à celui qui connaît la vérité révélée pour notre époque. Si vous aviez vécu à l'époque de Noé, la vérité révélée c'était qu'il fallait monter dans l'arche. Les gens, ils y croyaient dans l'arche. Ils la voyaient même. Mais ils ne savaient pas si Noé était un vrai prophète ou pas. Donc ils n'écoutaient pas vraiment ça d'une façon sérieuse. Et quand le moment est venu, ben ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Dieu lui-même a fermé la porte et c'était fini. Eh bien, nous devons non pas être simplement de ceux qui sont là pleins de religiosité, avec la Bible, en disant « oui, je crois tout ce que la Bible dit », puis aussitôt qu'un prophète vient pour révéler ce qui est scellé dans la Bible, on dit « oh, non, je crois pas, non », et puis encore, on discute et tout. Soyez des amoureux de la vérité. Priez le Seigneur afin qu'il vous donne l'amour de la vérité. Celui qui cherche y trouve. Si vous manquez de sagesse, si vous ne savez pas, si vous comprenez pas, demandez à Dieu, il vous donnera, il vous fera pas de reproches. Il vous donnera la sagesse. Il vous fera voir que c'est vrai. Vous allez lire, vous allez écouter et vous allez savoir. Je propose de commencer à faire une étude sur justement les sept âges et les sept sceaux de l'Apocalypse. Priez pour moi afin que je sois clair et que tout le monde puisse bien comprendre, afin que tout le monde puisse bien savoir. C'est très important. Quand Moïse s'est présenté pour faire sortir le peuple d'Égypte, eh bien, ça allait de plus en plus mal. Les gens auraient pu douter de lui. Eh bien, ne doutez pas des hommes de Dieu. Ne doutez pas de ces ministères extraordinaires. William Branham avait un ministère extraordinaire. Tellement extraordinaire, avec des guérisons, avec des révélations tellement extraordinaires, que les bons pasteurs, n'est-ce pas, ont dit que c'était... Comment ils appelaient ça? Enfin, un truc genre satanique, quoi. Comme si Satan était plus fort que Jésus. Ils sont incroyables. Ils sont jaloux, oui. Bon, eh bien, je vais arrêter là pour aujourd'hui et que Dieu bénisse ces choses dans vos cœurs et que vous ayez, que vous puissiez recevoir la sagesse et recevoir l'amour pour la vérité. Amen. Merci, Jésus. Merci Seigneur de donner à mes frères et sœurs l'amour pour ce qui est vrai, pour la vérité, et qu'un esprit de vérité puisse se saisir d'eux et qu'ils puissent, en entendant la vérité, la reconnaître. Père, je te remercie et te prie de bénir les uns et les autres dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.